Lorsque l'on aborde la question de la diffusion internationale du cinéma, la question de l'espace représenté est centrale, puisqu'il est le cadre incontournable qui permet aux spectateurs de se déplacer mentalement et de se situer. Toutes les histoires s'inscrivent dans un cadre spatial, à la fois le champ et le hors-champ, qui peut avoir lui-même plusieurs degrés de protagonisme dans le récit. Il peut soit constituer un simple décor instrumentalisé, mais il peut aussi arriver à être une sorte de personnage additionnel avec un véritable poids dans la narration. En raison de la durée moyenne assez brève d'un film, la rationalisation de l'espace-cadre du récit est nécessaire. La Havane entre dans la liste de ces villes que l'on connaît pour être attractives cinématographiquement. Son existence physique est doublée d'une existence dans l'imaginaire mondial globalisé. Et ce phénomène s'accompagne d'une série de stéréotypes qui ont tendance à figer cette partie des Caraïbes. Pour interroger l'image de la Havane destinée à un public national ou international, mon corpus d'études se compose de différents films, principalement 6 fictions et 3 documentaires réalisés par des cinéastes étrangers et qui ont bénéficié d'une sortie nationale en France entre 1999 et 2020. J'ai plus ou moins utilisé les films dont je vais faire mention. Certains sont simplement cités et d'autres sont étudiés un petit peu plus en détail. Certains de ces films sont des films très grand public, mainstream, et d'autres sont plus confidentiels. Leurs conditions de production sont très variées. Certaines œuvres sont déconnectées de l'industrie cubaine, mais d'autres ont reçu un conseil quotidien de la part de Cubains, comme par exemple le film espagnol Yuli. Certains films ont recours et ont fait appel à des acteurs cubains, et d'autres ont plutôt fait appel à des acteurs connus, comme par exemple Penélope Cruz, dans le cas de Cuban Network d'Assayas. Chaque représentation passe par une reconstitution pour laquelle le cinéaste tient compte, plus ou moins, du destinataire potentiel auquel il s'adresse. Je me centrerai plus précisément, sauf exception, sur les ouvertures de films en tant que moment décisif. De fait, ce seuil où l'on accueille le spectateur présente les lieux de l'action et installe également une ambiance. C'est un espace liminaire de bienvenue. Je vais vous parler en particulier du début du film autrichien Epicentro. C'est un début tout à fait exemplaire. Une voix off accueille le spectateur en 3 temps. Tout d'abord, la caméra sort d'un bâtiment délabré, de nuit, et ses déambulations dans les rues de la Havane le conduisent vers une gigantesque carcasse rouillée de voitures états-uniennes abandonnées au bord d'un trottoir. Le réalisateur finit ensuite sur le Malecón en plan fixe, éclairé par un réverbère, un très long plan, et l'on voit la mer furieuse qui éclate ses hautes vagues contre le mur, sur fond d'écume et de vapeur d'eau. Et là, alors, apparaît le mot « Epicentro », le titre du film « Épicentre » en majuscule blanche. Et la voix off prononce à ce moment-là la phrase suivante « This is where you are now, a small island named Cuba ». Cette voix off installe, à travers ces images aussi, 2 éléments centraux de mon étude, une vieille voiture et un mur. Tout cela se fait sur fond de musique classique et installe le spectateur dans une ambiance assez solennelle et assez impressionnante. Ces ouvertures installent la diégèse en maniant les mêmes marqueurs classiques. Et c'est pour cela que j'ai utilisé un corpus assez large, même si je ne l'exploite pas. C'est vraiment parce que ce marqueur revenait et il n'y a aucune exception. Il est là à chaque fois, ces marqueurs. Le début des films s'avère être un lieu de cristallisation des stéréotypes qui sont étymologiquement une trace solide. Et je considère le stéréotype d'un œil positif. C'est vraiment mon constat de départ. De fait, le stéréotype est une synthèse consensuelle qui limite certes un élément, ici la capitale cubaine, à certains de ses traits distinctifs. D'un côté, bien sûr, le stéréotype efface les nuances, mais d'un autre côté, c'est un puissant objet d'identification et de reconnaissance. J'utilise ici une définition d'Henri Boyer qui dit la chose suivante. Il n'y a pas lieu de lui conférer un statut exceptionnel ou nettement différent de celui de la représentation. Le stéréotype est bien une représentation qui a mal tourné ou qui a trop bien tourné, victime à n'en pas douter, à la suite d'un usage immodéré dû à une grande notoriété, d'un processus de figement inhérent cependant à la nature de la représentation, dont la pertinence pratique en discours est tributaire de son fonctionnement simplificateur et donc univoque, et à une stabilité de contenu rassurante, le terme est important, pour les membres du groupe de la communauté concernée. Fin de citation. Je m'inscris un peu en faux face à ce mépris que l'on répète très souvent et qui me semble très souvent aussi non mérité. Et je considère le stéréotype comme un élément tout à fait efficace pour penser le dialogue entre l'Amérique latine et l'Europe, tout en assumant un caractère paradoxal. Walton a parlé du stéréotype du paradoxe que contient le stéréotype, et je le cite. Tel est le paradoxe. Le stéréotype est à la fois ce qui permet d'accéder à l'autre par une représentation le plus souvent simplifiée et partagée, en même temps, par sa simplicité et son caractère fréquemment caricatural, il empêche de voir cette même réalité dans sa complexité. Au cinéma, le recours au stéréotype est l'un des stratagèmes que l'on peut utiliser pour contextualiser, en vertu de son caractère métonymique. Le cinéaste se trouve toujours sur une frontière assez fine. S'il recourt trop aux conventions de représentation, on l'accuse de paresse intellectuelle et d'imagination étriquée. En revanche, s'il le fait avec créativité, on loue alors sa capacité à nous plonger dans une ville et à nous faire voyager. Un excès ou l'autre dépend de plusieurs choses, et notamment de l'émetteur du message, de sa nationalité, mais aussi du récepteur et de sa propre connaissance de la capitale havanaise et du cinéma cubain. Ce qui pour un sera la répétition d'un cliché, souvent très négatif bien sûr, pour d'autres est une information indispensable. Chaque créateur recherche sa propre Havane, celle qui s'adaptera au mieux au ton de son histoire. Ça ne m'intéresse pas tellement finalement d'évaluer un film en fonction de la conformité avec la réalité. Parce que condamner une œuvre fictionnelle notamment, mais aussi documentaire, parce qu'elle manipulerait jusqu'à un certain point le spectateur, c'est aussi ignorer le fonctionnement de base du cinéma. Je présente le corpus utilisé en présentant ici à chaque fois l'affiche française et parfois j'ai ajouté l'affiche étrangère et des photogrammes que j'ai tirés des ouvertures des films. Vous pouvez voir que le paratexte contient dès le départ les premiers indices des éléments patrimoniaux susceptibles d'offrir une touche havanaise recherchée. Les épigraphes que l'on voit dans presque tous les films que je vais citer sont une première confirmation très factuelle de la situation géographique, mais ces épigraphes ne sont pas la seule confirmation. En général, le paratexte et certaines inscriptions tirées de la presse que l'on voit sur les affiches créent des attentes toujours similaires, une île paradisiaque, une île énergique, lumineuse, animée, etc. Chaque film nous promet une Havane jamais vue auparavant, et pourtant, aucun ne semble pouvoir se passer du Malecón et des véhicules anciens. Je passe donc en revue les différents films en citant leur nationalité. Donc vous avez ici d'abord Buena Vista Social Club, le film allemand de 1999, qui s'ouvre sur le fameux trajet le long du Malecón en voiture de Compay Segundo, puis ensuite celui en moto sidecar de Ray Cooder et de son fils Joaquim. Le second film est un film espagnol, donc je les ai classés par ordre chronologique, un film espagnol de 2006, Havana Blues, et donc là on a une sorte d'overdose de véhicules américains, puisque l'on voit tout le temps la même voiture ancienne rouge. Le film suivant est le film états-unien Una Noche, qui s'ouvre également sur le Malecón, où une jeune fille semble pensive, mais avant ça, il y a une pré-introduction du film où une jeune fille se trouve également dans une voiture américaine. Le film suivant est le film Retour à Ithaque de Laurent Contet, France 2014. Ensuite, nous citerons Biva, qui est un film irlandais et qui m'intéresse notamment parce qu'il s'ouvre donc à la fois sur un plan d'ensemble de la Havane dans une sorte de crépuscule et ensuite s'enchaîne sur des images d'introduction du personnage s'engouffrant dans la ville à un rythme très humain, lent, très tranquille. Il est entouré de véhicules et ensuite la Havane devient très pluvieuse, ce qui est une image très utilisée aujourd'hui dans le cinéma cubain. Le film suivant est le blockbuster états-unien Fast and Furious numéro 8, tourné en 2016. Il y a ensuite la deuxième partie du film Buena Vista Social Club qui s'intitule Adios, film états-unien de 2017. Le film Yuli est un film à la fois espagnol par sa réalisatrice Isiar Boyain et le scénariste vient du Royaume-Uni. Il y a ensuite Cuban Network de Olivia Sayas de France et enfin le film autrichien Epicentro que j'ai déjà cité. Voilà, donc sur toutes les affiches et dans tous ces débuts de films, on voit des façades typiquement havanaises que l'on reconnaît assez facilement, on voit des personnages arpentant les rues et l'on voit une multitude de voitures américaines. Le stéréotype, contrairement à ce que l'on pourrait croire communément, est extrêmement évolutif. Il n'est pas fixe ni arrêté. Il s'est tenu ici à Cerisy un colloque sur le thème du stéréotype, dans lequel il était très souvent défendu, et c'est un classique d'ailleurs dans les livres sur ce sujet, on se retrouve souvent à ouvrir par une défense du stéréotype. Donc ici, c'est McLuhan qui est cité. Je cite, « Le banal tel quel est riche d'énergie, mais il faut du talent pour la libérer. Le meilleur moyen, c'est de frotter deux clichés ordinaires l'un contre l'autre. Comme deux morceaux de bois, ils prennent feu. » Fin de citation. Nous allons donc nous interroger sur ces éléments banals, récurrents dans les productions étrangères sur Cuba et tournées à Cuba. Nous allons un petit peu étudier leurs fonctions et leur capacité de réactualisation. Donc, plus que tout autre monument havanais indispensable, c'est le Malecón qui s'impose dans tous les récits. Alors, pas le Malecón dans son entier, mais toujours une large portion, et c'est souvent la même portion du Malecón. La ville se retrouve donc d'une certaine manière excentrée et déplacée contre son fameux parapet, et elle se retrouve ainsi réduite à son contour extérieur, et elle finit par être une silhouette. On voit que ce mur et l'avenue sont clairement une des portes d'entrée favorites des récits. C'est aussi la frontière qui affirme le caractère insulaire de la Havane. Ce lieu est à la fois ouverture maritime visuelle, mais est aussi une sorte de limite à la mobilité des Cubains. Les personnages du film Una Noche résument cette double caractéristique. Le film s'ouvre sur ces personnages s'amusant, sautant dans l'eau depuis le mur du Malecón. Et le film termine avec ces jeunes gens qui risquent leur vie en se lançant sur un radeau de fortune vers les États-Unis. Esthétiquement, cette avenue maritime n'est pas une ligne droite, mais elle suit les courbes des différents quartiers. Donc on a, quand on regarde comme ça le plan de la Havane que je vous propose, on voit que c'est convexe autour du Vedado, que c'est ensuite concave lorsque l'on est dans Centro Havana, et qu'on retrouve de nouveau cette forme convexe dans la vieille Havane. Ce qui nous donne visuellement une sorte de serpent qui offre des perspectives esthétiques sur l'avenue et sur ses bâtiments. Nombre de ces bâtiments sont marqués par une texture particulière qui est celle des ruines et par un chromatisme pastel. Là encore, du fait de l'air marin et de ces vagues qui continuellement rentrent dans la ville. Filmer le Malecón devient donc une sorte d'exercice de style et les cinéastes, victimes entre guillemets, comme nous le sommes nous aussi en tant que touristes, ou même les locaux, victimes de la fascination qui se dégage de ce lieu d'introspection et de rencontre, relèvent ce défi. Certains des cinéastes filment leurs personnages de près, comme c'est le cas dans Retour à Ithaca ou dans Una Noche, et d'autres essaient plutôt d'embrasser la Havane avec leur caméra, ou plus communément, dernièrement, avec leur drone, puisque c'est un outil qui est devenu aussi assez stéréotypé et très commun lorsque l'on prend des vues générales des grandes métropoles. Parfois, l'information se situe dans la partie floue et dans l'arrière-plan. C'est le cas, par exemple, dans le film de Laurent Cantet, Retour à Ithaca, puisque tout se déroule sur un toit-terrasse où sont réunis quatre amis, au départ, puis cinq, dans un exercice de huis clos extérieur assez particulier. Or, malgré le fait qu'on soit isolé sur ce toit-terrasse, l'action ne se situe pas dans un lieu indéfini. Le travelling inaugural du film, qui est un travelling circulaire à 360 degrés, suit les personnages qui dansent et qui chantent, plutôt de façon très légère au début du film. Et nous pouvons entrevoir de nombreux détails havanais dans l'arrière-plan. Donc, de nouveau, on voit la mer. On sait qu'on est au bord de la mer, près du Malecón, dans les rues Vapor y Marina. On voit aussi au loin le phare de la Havane. On voit des éléments du parc Antonio Maceo, le célèbre bâtiment Fox. Donc, on sait parfaitement qu'on se situe dans le quartier du Vedado. Le photogramme final du film, que vous voyez ici, élargit le champ et fait la mise au point pour nous permettre de valider l'espace dont il est question, le Malecón et ses courbes. Se conjuguant avec cette figure imposée du Malecón, le déplacement est une deuxième constante. Au niveau pragmatique, le fait évidemment de parcourir une ville et un décor cinématographique avec un véhicule est d'abord la meilleure manière d'en saisir une large partie. Ensuite, on se rend compte, quand on connaît un petit peu mieux la ville, que le réalisme du parcours est tout à fait secondaire. Hein, c'est très aléatoire. Pour reprendre la terminologie d'André Gardiès, le spectateur a une capacité qui est celle de réunir des lieux fragmentés pour créer un espace narratif, un espace diégétique qui est virtuel, et qui fonctionne comme un véritable système accepté qui appartient uniquement à ce film et qui est créé expressément pour lui. Mais dans notre cas, il ne s'agit jamais seulement de simples caméras embarquées. La nature du véhicule adopté dans le film importe énormément. Le prologue de la biographie du danseur Carlos Acosta et Yuli fait converger tous ces personnages principaux vers leur lieu de travail, qui est le Grand Théâtre National. Donc, nous allons voir la séquence inaugurale du film, qui dure 2 minutes, et qui se fait de façon très légère sur l'air du pas d'action du ballet russe La Bayadère. Cette séquence nous donnerait l'occasion de dessiner une topographie telle que André Gardiès nous amène ou nous invite à les faire, puisqu'elle se compose de 25 plans en déplacement constant. De ces 25 plans, 18 sont des travelling latéraux d'accompagnement qui se font dans un sens contraire. Environ, je crois, 8 d'entre eux se font vers la droite et 10 se font vers la gauche. Et ces travelling permettent d'explorer différents quartiers. Donc, dans chacun de ces travelling, nous marchons avec l'un des danseurs de la compagnie de Carlos Acosta, et d'autres travelling se déroulent avec le spectateur embarqué sur le siège arrière de Carlos Acosta lui-même. Donc, mentalement, le spectateur crée un espace système qui, cette fois-ci, est un espace havané, un espace très large, un espace très lumineux dans lequel l'air et les personnes circulent. De nombreux moyens de transport viennent ensuite boucher la vue du spectateur, comme une sorte de second ballet en plus des danseurs. Donc on a des bus, des voitures, des taxis qui complètent ce cadre spatial. Les derniers travelling rompent avec ces travelling latéraux et sont des travelling vers l'avant qui sont pris vers le bâtiment qui avale d'une certaine manière ces artistes et qui conclut un portrait de cette ville culturelle en mouvement perpétuel. Donc le véhicule de prédilection de tous ces cinéastes qui est mis en scène dans chacun des films, c'est le fameux Almendron, donc la grosse amande, comme son nom l'indique, qui est de fait la voiture états-unienne des années 40, 50, etc. De nombreux facteurs expliquent son omniprésence à l'écran. En premier lieu, de façon très prosaïque, sa présence réelle dans les rues de la Havane. Le deuxième élément, c'est sa photogénie, ensuite sa taille, son élégance, la variété de modèles et de couleurs que l'on trouve. Et tout ceci constitue pour le touriste, pour l'étranger qui regarde le film, un élément tout à fait exotique. Mais le niveau le plus intéressant de cet objet, c'est sa forte charge géopolitique. C'est un véhicule de collection, vu encore une fois par un étranger, mais qui appartient au quotidien des Cubains. Il est une trace de la présence états-unienne, mais ce qui l'a maintenu en état de marche au fil des décennies, ce sont les pièces détachées, chinoises, soviétiques, vénézuéliennes, qui font de cet objet une sorte de sédimentation de lieu et de temporalité, qui prouve aussi l'inventivité des Cubains, malgré l'embargo. L'Almendron, donc on va l'appeler comme ça, rouge du film Havana Blues, dans lequel se pressent des jeunes gens avec des dreadlocks, avec plein d'instruments, voilà, une sorte de voiture comme ça, pleine à craquer, est un signe clair des multiples vies de ces énormes maquinas, qui est le deuxième nom, enfin un des noms qui leur est donné à Cuba. Lorsque les musiciens vont chercher à son hôtel le personnage de l'Espagnol sans scrupules qui veut exporter le groupe en le polissant de façon à ce qu'il puisse rentrer dans un marché global, celle-ci, donc l'Espagnol, est en pleine conversation téléphonique. Elle dit à son interlocuteur « Je monte dans la machine à remonter le temps. Comment ça s'appelle, ça ?» Le jeune Cubain, le musicien, lui répond « Une Chevrolet de 1952. »« Ah, une Chevrolet de 1952, sacrément folklorique. » Donc malgré ce mépris de l'étrangère à Cuba, le véhicule, l'Almendron, est un véritable référent havanais. Donc rappelons qu'un référent, donc le stéréotype qui existe dans la réalité, n'accède à ce statut qu'en devenant un référé, c'est-à-dire lorsqu'il est cité et utilisé dans un texte. Ce qui est intéressant avec le film Fast and Furious, pour lequel je me permets une parenthèse, puisque évidemment cela semble être un choix assez spécial, que l'on pourrait rejeter en vertu de son caractère de blockbuster, qui provoque plutôt le rire qu'une sorte de confiance en tant qu'élément de corpus fiable. Donc ce qui est intéressant avec Fast and Furious numéro 8, c'est qu'il commence par modifier ce référent. Dans l'un des photogrammes du début du film, on voit le Parque Central de la vieille Havane, enfin qui fait frontière entre la vieille Havane et Centro Havana, qui est rempli par des centaines de véhicules américains, et c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Clairement, le référent est tout à fait hypertrophié. Voilà, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu une telle concentration. Et ce qui est drôle aussi, c'est que l'on constate qu'ils ont fait disparaître toutes les voitures plus modestes, et particulièrement les Lada russes, et on comprend assez facilement pourquoi. Donc, Fast and Furious, de fait, si vous n'êtes pas coutumier ou familier avec cette saga, est une sorte de fantasme automobile excessif. Et le fait, ce choix de filmer un épisode à Cuba peut surprendre et a surpris à l'époque où il a été décidé. Mais en réalité, il faut vraiment redonner à ce film son importance politique énorme. C'est qu'il venait ratifier culturellement le nouveau jumelage diplomatique qui était en marche en 2016. Et finalement, pour penser un peu plus profondément cette relation culturelle entre Cuba et les États-Unis, et cette relation difficile, il ne faut pas écarter ce film parce qu'il était très symbolique et il marquait ce qui devait être le début d'une fructueuse collaboration grâce au dégel cubain qui avait été initié par Obama et Raúl Castro et qui évidemment a été ensuite avorté. Dans la longue séquence initiale de Fast and Furious, qui dure 4 minutes 40, les personnages se retrouvent pour une course entre un Cubain dans la voiture réputée pour être la voiture la plus rapide de toute la Havane, donc une grosse voiture américaine noire, un petit peu effrayante comme ça, et l'un des héros de la saga Fast and Furious qui est en voyage de noces à la Havane. Au départ de cette course, les deux voitures sont alignées, une énorme foule de Havanais qui ont entre 18 et 25 ans maximum, vêtues dans des couleurs beaucoup trop chatoyantes pour qu'elles soient réelles. Donc les deux véhicules sont alignés et selon un grand classique de la course automobile et notamment cinématographique, une femme vient donner le départ. Donc elle est extrêmement court vêtue, c'est rien de le dire, et elle donne le départ de cette course en disant Esta es la Havana. Non, elle affirme d'abord le lieu dans lequel ça va se dérouler. Elle donne les dernières recommandations aux coureurs et elle lance une course absolument frénétique qui permet à peine de voir la Havane, c'est-à-dire que tout se déroule à une vitesse invraisemblable. Et le seul moment où finalement l'action ralentit, c'est le moment où l'on croise une calèche qui passe devant le drapeau cubain et le portrait du Che. Le reste du temps, on a droit à une sorte de visite accélérée des rues de la Havane. Aucune autre voiture ne circule, toutes les voitures sont arrêtées par des motos, toutes les voitures sont des voitures américaines. Et donc dans un trajet pas forcément extrêmement cohérent, l'Américain qui a un véhicule qu'il a customisé précédemment avec ce qu'il appelle le turbo du pauvre, c'est-à-dire un élément qu'il a emprunté d'une canette de Coca-Cola, se retrouve donc à conduire avec tout son talent ce véhicule dans les rues de la Havane. La course est effrénée, il y a des pièges, on ne s'épargne aucun coup bas. Et bien sûr, le moment que tout le monde attend, c'est le moment final de ce Havana Mile, ça s'appelle comme ça, donc les 2 kilomètres havanais, le moment où la course se termine sur le Malecón. Donc les deux véhicules s'engouffrent sur un Malecón, sur lequel, encore une fois, viennent s'écraser les vagues. Le véhicule de l'États-Unien prend feu et il finit en marche arrière dans une scène complètement dantesque. Il finit sa course en marche arrière. Le véhicule ayant pris feu, il doit s'éjecter. Il gagne d'un cheveu la course, saute de son véhicule, puis ensuite le véhicule s'envole puisqu'il vient de buter contre le fameux Malecón et il s'envole en flammes. Or, ce qui est intéressant dans ce plan, donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans le film, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un premier temps, mais c'est que le véhicule s'envole et que dans le fond, le bâtiment que l'on voit, c'est l'ambassade américaine, qui ne s'appelle pas l'ambassade américaine, mais le bureau des intérêts états-uniens, et un endroit qui s'appelle à Cuba le protestodrome, qui est l'endroit où l'on allait organiser des manifestations devant l'ambassade. Donc c'est parfaitement diplomatiquement incorrect, enfin je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est politiquement chargé. Différentes couches de mythologie viennent un petit peu s'agréger. Il y a un choc d'imaginaire puisque quand on isole certains plans de cette course, on voit aussi une référence plan par plan à la mythique course de la fureur de vivre avec James Dean, la Chicken Run. Voilà. Que vous dire de plus sur cette course? Bon, y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je peux ajouter aussi qu'à la fin, le gagnant est censé remporter la voiture du perdant et que l'États-Unien refuse les clés qui lui sont tendues en partie parce qu'il laisse bien sûr élégamment la voiture aux Cubains, mais aussi parce que le porte-clé qui lui est tendu est un porte-clé du drapeau cubain, et il lui dit « Merci, ton respect me suffira », et il lui tend son drapeau cubain. Voilà, donc c'est à la fois cordial mais tendu, enfin c'est assez spécial. Donc les almendrones sont un dénominateur commun évident, et les films états-uniens, de fait, qui n'ont jamais pu être filmés à La Havane avant le retour de Fast and Furious, pour des raisons politiques, avaient l'habitude de compléter le décor naturel avec cet objet, comme s'il suffisait d'un almendrone pour dire « Havane ». Rob Stone a étudié l'exemple du film de la série James Bond, Die Another Day, qui a été filmé à Cadiz, en Espagne, avec un Malecón qui ne ressemble absolument pas au Malecón cubain lorsqu'on le connaît. Mais pour tromper, entre guillemets, encore une fois, le spectateur, ils ont placé des petits pioneros, donc les enfants, les écoliers cubains, et des véhicules américains. Le stéréotype est une chose réconfortante, c'est une chose accessible qui est utile au récit. C'est toujours un défi de parler de New York sans montrer sa skyline, de parler de Paris sans montrer ses bâtiments haussmanniens, ou de parler de La Havane sans son Malecón à un public qui peut-être n'a jamais eu la chance de se rendre dans un endroit ou dans l'autre. Si l'on traduit les conventions qui contribuent à cet effet de réalisme, on déçoit d'une certaine manière le spectateur. Donc cette espèce de saut de garantie de cubanité est très opérant, surtout dans les films transnationaux par excellence, qui sont filmés dans un pays A par une nation B et qui sont destinés ensuite à divers marchés. Dans certains films du corpus, on confronte Cuba à d'autres pays en utilisant des stéréotypes comme ciment de l'imaginaire qui viennent faciliter le dialogue. Donc je parle depuis le début de ma communication de début de film, et je voudrais faire une exception pour parler de la fin d'un film qui est le film états-unien Antes que anochezca, avant la nuit, adaptation de l'autobiographie de Reinaldo Arenas. À la fin du film, l'écrivain très malade exilé arrive à la fin de sa vie. Il se réveille dans un hôpital où l'infirmier lui annonce « Reinaldo, it's time to go home ». Javier Bardem lui répond, dans un demi-sommeil, il est tout à fait épuisé, il lui répond « à Cuba ». À ce moment-là, un taxi jaune conduit l'écrivain depuis l'hôpital jusqu'à sa maison new-yorkaise où il se prépare à se suicider. Depuis le siège arrière, le profil de Javier Bardem est filmé et on le voit à travers la fenêtre parcourir ce trajet new-yorkais. Mais le montage, très habile et très fin, insère en champ contre champ des images havanaises, Malecón en premier lieu, entre différents gratte-ciel new-yorkais, et le tout est fusionné dans un même espace par la triste hallucination de l'écrivain et grâce à un ciel bleu qui unifie ces images. Donc la nostalgie de la patrie perdue envahit le film. Tous ces travelling latéraux sur les bâtiments en ruine sont aussi un signe du crépuscule de la vie d'Arenas. On retrouve ce dialogue entre deux espaces et deux continents dans l'introduction de Buena Vista Social Club, qui est un montage parallèle entre une soirée de concert à La Havane, filmée avec des filtres nocturnes assez chics, et une balade à travers les quartiers havanais. D'un côté, on voit la représentation du succès mondial des grands-pères musiciens, et de l'autre, on remonte à leur essence, à ce qui les définit, à leur cubanité, « Made in La Havane ». Donc pour conclure, nous avons vu deux éléments, le Malecón et les almendrones, qui sont, aux côtés d'autres éléments évidemment, un mélange d'aimant esthétique pour les cinéastes et de précipité stratégique pour les producteurs. Je ne limite pas les films à ce que nous avons vu dans les introductions. Il est évident que la plupart d'entre eux, dans le reste du long métrage, puisque j'ai tronqué mon objet d'étude, propose de nombreux autres éléments qui sont très intéressants et qui enrichissent et qui réactualisent encore plus ces éléments cités. Donc je ne crois pas que l'usage du stéréotype lorsque l'on parle de l'Amérique latine en étant européen soit forcément ou dénote forcément un excès de néocolonialisme ou un désintérêt pour l'authenticité de ces pays. Je crois surtout que le cinéma doit concentrer les éléments et qu'il fonctionne beaucoup par des raccourcis. Lors de la préparation de cette communication, je me suis posé de nombreuses questions. La première étant la question de savoir si Le regard distancié de l'étranger peut aussi être une manière de rafraîchir et de rénover le regard sur sa propre ville. Et je pense en cela aux travaux qui sont faits conjointement par des étudiants cubains et des étudiants étrangers à l'École internationale de cinéma et télévision de San Antonio de los Baños, qui ont comme exercice imposé d'aller filmer un de leurs exercices de peut-être deuxième ou troisième année dans la vieille Havane. Et les travaux qui en ressortent, pour en avoir vu quelques-uns, sont très intéressants et montrent des regards parfois différents. Et la deuxième chose qui me pose question, c'est ce qui est devenu un nouveau stéréotype, c'est-à-dire notre propre allergie au lieu commun. Or, son nom nous amène tout de même à le considérer de façon positive comme quelque chose qui nous réunit, même intellectuellement, dans un même espace. Évidemment, l'autre face de cette communication serait une nécessaire prolongation vers les travaux des Cubains qui viendraient compléter ce travail. Et lorsqu'on connaît un petit peu les films cubains, les derniers, on se rend compte très rapidement que l'usage des stéréotypes pour planter très efficacement un décor n'est absolument pas une prérogative du regard exogène. Eux-mêmes recourent à ces stéréotypes que nous venons de, non pas de condamner, mais de montrer. Les Cubains essaient d'intégrer le marché international. Je pense qu'il serait difficile de le leur reprocher. Et les coûts, les stratégies de vente sont une réalité que l'on ne peut ignorer. Dans tous les cas, que ce soit de la part des Cubains ou de la part des cinéastes étrangers, je crois que l'attractivité de la Havane fantasme est chaque fois renouvelée, parce que les stéréotypes peuvent servir à démontrer des fantasmes, mais aussi des dystopies. Et dans le cas de la Havane, c'est quand même très souvent une image fantasmée. Je voudrais ajouter que lorsque l'on prend en compte les capacités très réduites, malheureusement, de production aujourd'hui à Cuba et depuis quelques années, avant même la Covid, les films mentionnés sont souvent les seuls films que l'on parvient à voir sur les écrans français. Donc ce sont les films qui modèlent réellement l'imaginaire des étrangers. Donc souvent, quelqu'un croit avoir vu un film cubain, or il a vu un film irlandais, un film espagnol, etc. Le cinéma nous offrira toujours une première approche, un premier contact avec un espace réel à travers une sorte de mensonge accepté, de mensonge admis. Espérons que le stéréotype soit une étape initiale vers un plus grand degré de complexité. Nous pouvons citer par exemple l'un des seuls films cubains sortis très récemment sur les écrans, qui est le film de Daranas, Sergio y Sergei. Voilà, mais à part ça, les films que je viens de vous montrer sont ceux auxquels on doit faire confiance, malheureusement, lorsqu'on est un spectateur français ou étranger, pour connaître la Havane. D'autres films pourraient entrer dans ce corpus, en particulier 7 jours à la Havane, le film composé de 7 courts-métrages sur la Havane. Voilà. Et aussi un film colombien qui s'appelle Candelaria. Bref, mais il y aura encore pas mal de choses à dire sur ce sujet du stéréotype dans le cinéma cubain. Merci.